Chapitre 15, la légende du roi martyr, le procès. Le premier soin du roi, en arrivant, avait été de demander qu'on le conduisît à sa famille. On lui répondit qu'il n'y avait pas d'ordre à ce sujet. Louis comprit que, comme tout condamné à qui l'on fait un procès mortel, il était au secret. « Prévenez au moins ma famille de mon retour, » dit-il. Puis, sans se préoccuper des quatre municipaux qui l'entouraient, il se mit à sa lecture habituelle. Le roi avait encore un espoir, c'est qu'à l'heure du souper, sa famille montrait chez lui. Il attendit vainement, personne ne parut. « Je suppose cependant, dit-il, que mon fils passera la nuit chez moi, puisque ses effets sont ici. » Hélas, le prisonnier n'avait même plus à l'endroit de son fils cette certitude qu'il affectait d'avoir. On ne répondit pas plus à cette demande qu'on ne l'avait faite aux autres. « Allons, dit le roi, couchons-nous alors. » Cléry le déshabilla, comme de coutume. « Oh, Cléry, murmura-t-il, j'étais loin de m'attendre aux questions qu'ils m'ont faites. » Et en effet, presque toutes les questions faites au roi avaient leur source dans l'armoire de fer, et le roi, ignorant la trahison de gamin, ne soupçonnait pas que l'armoire de fer fût découverte. Néanmoins, il se coucha, et à peine couché, s'endormit, avec cette tranquillité dont il avait déjà donné des preuves, et que, dans certaines circonstances, on pouvait prendre pour de la léthargie. Il n'en fut pas de même des autres prisonniers. Ce secret absolu était pour eux effroyablement significatif. C'était le secret des condamnés. Comme le dauphin avait son lit et ses effets chez le roi, la reine coucha l'enfant dans son propre lit et toute la nuit, debout au chevet, le regarda dormir. Sa douleur était si morne, cette pose ressemblait tellement à celle de la statue d'une mère près du tombeau de son fils, que Madame Élisabeth et Madame Royale résolurent de passer la nuit sur des chaises à côté de la reine debout. Mais les municipaux intervinrent et forcèrent les deux femmes à se coucher. Le lendemain, pour la première fois, la reine adressa une prière à ses gardiens. Elle demandait deux choses, à voir le roi et à recevoir les journaux pour être tenue au courant du procès. On porta ces deux demandes au conseil. L'une fut refusée complètement, celle des journaux, l'autre fut accordée à moitié. La reine ne pouvait plus voir son mari, ni la sœur de son frère, mais les enfants pouvaient voir leur père, à la condition qu'ils ne verraient plus leur mère ni leur tante. On signifia au roi cet ultimatum. Il réfléchit un instant, puis, avec sa résignation accoutumée, « Bien, dit-il, quelque bonheur que j'éprouve à voir mes enfants, je renoncerai à ce bonheur. La grande affaire qui m'occupe m'empêcherait d'ailleurs de leur consacrer le temps dont ils ont besoin. Les enfants resteront près de leur mère. » Sur cette réponse, on monta le lit du dauphin dans la chambre de sa mère, laquelle à son tour ne quitta ses enfants que lorsqu'elle alla se faire condamner par le tribunal révolutionnaire, comme le roi allait se faire condamner par la Convention. Il fallait songer aux moyens de communiquer, malgré ce secret. Ce fut encore Cléry qui se chargea d'organiser les correspondances avec l'aide d'un serviteur des princesses nommé Turgis. Turgis et Cléry se rencontraient en allant et venant pour les besoins de leur service. Mais la surveillance des municipaux rendait toute conversation difficile entre eux. Les seules paroles qu'ils pussent échanger se bornaient d'ordinaire à ces mots « Le roi va bien, la reine, les princesses et les enfants vont bien ». Cependant, un jour, Turgis remit un petit billet à Cléry. « Madame Élisabeth me l'a glissé dans la main en me rendant sa serviette, » dit-il à son collègue. Cléry voulut porter le billet au roi. Il était tracé avec des piqûres d'épingles. Depuis longtemps, les prisonnières n'avaient plus ni d'encre, ni de plume, ni de papier. Il contenait ces deux lignes. « Nous nous portons bien, mon frère, écrivez-nous à votre tour. » Le roi répondit, car depuis l'ouverture du procès, on lui avait rendu plume, encre et papier. Puis, donnant la lettre toute ouverte à Cléry, « Lisez, mon cher Cléry, lui dit-il, et vous verrez que ce billet ne contient rien qui puisse vous compromettre. » Cléry refusa respectueusement de lire et repoussa en rougissant la main du roi. 10 minutes après, Turgis avait la réponse. Le même jour, ce dernier, en passant devant la chambre de Cléry, fit par la porte entr'ouverte de cette chambre rouler jusque sous le lit un peloton de fil. Ce peloton de fil recouvrait un second billet de Madame Élisabeth. C'était un moyen indiqué. Cléry repoltonna le fil autour d'un billet du roi et cacha le peloton dans l'armoire aux assiettes. Turgis le trouva et remit la réponse au même endroit. Le même manège se répéta pendant plusieurs jours. Seulement, à chaque fois que son valet de chambre lui donnait quelques nouvelles preuves de fidélité ou d'adresse de ce genre, le roi secouait la tête en disant « Prenez garde, mon ami, c'est vous exposer ». Le moyen était en effet trop précaire. Cléry en chercha un autre. Les commissaires remettaient au roi la bougie en paquet ficelé. Cléry garda soigneusement les ficelles, et lorsqu'il eut une quantité suffisante, il annonça au roi qu'il avait un moyen de rendre sa correspondance plus active. C'était de faire passer sa ficelle à Madame Élisabeth. Madame Élisabeth, qui couchait au-dessus de lui et qui avait une fenêtre correspondant verticalement à celle d'un petit corridor contigu à la chambre de Cléry, pouvait pendant la nuit suspendre ses lettres à une ficelle et, par le même moyen, recevoir celle du roi. Un abat-jour retourné masquait chaque fenêtre et empêchait que les lettres ne pussent tomber dans le jardin. En outre, on pouvait par cette même ficelle descendre plumes, papier et encre, ce qui dispenserait les princesses d'écrire avec des pointes d'épingle. Il fut donc ainsi permis aux prisonniers d'avoir chaque jour des nouvelles, les princesses du roi, le roi, des princesses et de son fils. Au reste, la position de Louis XVI s'était moralement fort empirée depuis qu'il avait comparu devant la Convention. On croyait généralement deux choses. Ou que, suivant l'exemple de Charles Ier, dont il savait l'histoire, le roi refuserait de répondre à la Convention, ou que, s'il répondait, il répondrait hautainement, fièrement, au nom de la royauté, non pas comme un accusé qui subit un jugement, mais comme un chevalier qui accepte le défi et ramasse le gant du combat. Par malheur pour lui, Louis XVI n'était point de nature assez royale pour s'arrêter à l'un ou l'autre de ces deux parties. Il répondit mal, timidement, gauchement, comme nous l'avons déjà dit, et sentant que, devant toutes les pièces tombées à son insu entre les mains de ses ennemis, il s'enferrait, le pauvre Louis finit par demander un conseil. Après une délibération tumultueuse qui suivit le départ du roi, le conseil fut accordé. Le lendemain, quatre membres de la Convention, nommés commissaires à cet effet, allèrent demander à l'accusé quel était le conseil choisi par lui. « Monsieur Target, répondit-il. » Les commissaires se retirèrent et l'on prévint Monsieur Target de l'honneur que lui faisait ce roi. Chose inouïe, cet homme, homme d'une grande valeur, ancien membre de la Constituante, un de ceux qui avaient pris la part la plus active à la rédaction de la Constitution, cet homme eut peur. Il refusa lâchement, pâlissant de crainte devant son siècle, pour rougir de honte devant la postérité. Mais dès le lendemain du jour où le roi avait comparu, le président de la Convention recevait cette lettre. « Citoyen président, j'ignore si la Convention donnera à Louis XVI un conseil pour le défendre et si elle lui en laissera le choix. Dans ce cas, je désire que Louis XVI sache que, s'il me choisit pour cette fonction, je suis prêt à m'y dévouer. Je ne vous demande pas de faire part à la Convention de mon offre, car je suis éloigné de me croire un personnage assez important pour qu'elle s'occupe de moi. » Mais j'ai été appelé deux fois au conseil de celui qui fut mon maître dans le temps où cette fonction était ambitionnée par tout le monde. Je lui dois le même service lorsque c'est une fonction que bien des gens trouvent dangereuse. Si je connaissais un moyen possible pour lui faire savoir mes dispositions, je ne prendrais pas la liberté de m'adresser à vous. J'ai pensé que dans la place que vous occupez, vous avez plus que personne moyen de lui faire passer cet avis. Je suis, avec respect, etc., etc., signé Malesherbes. Deux autres demandes arrivèrent en même temps, l'une d'un avocat de Troyes, M. Sourdat. « Je suis, disait-il hardiment, porté à défendre Louis XVI par le sentiment que j'ai de son innocence. » L'autre, d'Olympe de Gouges, l'étrange improvisatrice méridionale qui dictait ses comédies parce que, disait-on, elle ne savait pas les écrire. Olympe de Gouges s'était faite l'avocat des femmes. Elle voulait qu'on leur donnât les mêmes droits qu'aux hommes, qu'elles pussent briguer la députation, discuter des lois, déclarer la paix et la guerre. Et elle avait appuyé sa prétention d'un mot sublime. « Pourquoi les femmes ne monteraient-elles pas à la tribune » dit-elle, « elles montent bien à l'échafaud. » Elle y monta en effet, la pauvre créature, mais au moment où fut prononcé le jugement, elle redevint femme, c'est-à-dire faible, et voulant profiter du bénéfice de la loi, elle se déclara enceinte. Le tribunal renvoya la condamnée à une consultation de médecins et de sages-femmes. Le résultat de la consultation fut que, s'il y avait grossesse, cette grossesse était trop récente pour qu'on pût la constater. Devant l'échafaud, elle redevint homme et mourut, ainsi que devait mourir une femme comme elle. Quant à monsieur de Malesherbes, c'était ce même Lamoignon de Malesherbes qui avait été ministre avec Turgot et était tombé avec lui. Nous l'avons dit ailleurs, c'était un petit homme de 70 à 72 ans, né naturellement gauche et distrait, rond, vulgaire, vraie figure d'apothicaire, dit Michelet, et dans lequel on était loin de soupçonner un héroïsme des temps antiques. Devant la Convention, il n'appela jamais le roi que « Sire ». « Tu te rends si hardi de parler ainsi devant nous ?» lui demanda un conventionnel. « Le mépris de la mort, » répondit simplement Malesherbes. Et il la méprisait bien, cette mort à laquelle il marcha en causant avec ses compagnons de charrette et qu'il reçut, comme s'il ne devait, selon le mot de M. Guillotin, éprouver en la recevant qu'une légère fraîcheur sur le cou. Le concierge de Monceau, c'était à Monceau que l'on portait les corps des suppliciés, le concierge de Monceau constata une singulière preuve de ce mépris de la mort. Dans le gousset de la culotte de ce corps décapité, il trouva la montre de Malesherbes. Elle marquait 2 heures. Selon son habitude, le condamné l'avait remonté à midi, c'est-à-dire à l'heure où il marchait à l'échafaud. Le roi, à défaut de Targé, prit donc Malesherbes et Tronchet. Ceux-ci, pressés par le temps, s'adjoignirent l'avocat de 16. Le 14 décembre, on annonça à Louis qu'il avait permission de communiquer avec ses défenseurs et que, le même jour, il recevrait la visite de M. de Malesherbes. Le dévouement de celui-ci l'avait fort touché, quoique son tempérament le rendît peu accessible à ces sortes d'émotions. En voyant venir à lui, avec une simplicité sublime, ce vieillard de 70 ans, le cœur du roi se gonfla, et ses bras royaux qui se desserrent si rarement, s'ouvrirent, et tout en larmes, « Mon cher monsieur de Malesherbes, dit le roi, venez m'embrasser. » Puis, après l'avoir affectueusement serré sur sa poitrine, « Je sais à qui j'ai affaire, continua le roi, je m'attends à la mort et je suis préparé à la recevoir. Tel que vous me voyez en ce moment, je suis tranquille, n'est-ce pas? Eh bien, tel je marcherai à l'échafaud. » Le 16, une députation se présenta au temple. Elle se composait de 4 membres de la Convention, c'était Valazé, Cochon, Grandpré et Duprat. On avait nommé 21 députés pour examiner le procès du roi. Tous 4 faisaient partie de cette commission. Ils apportaient au roi son acte d'accusation et les pièces relatives à son procès. La journée tout entière fut employée à la vérification de ces pièces. Chaque pièce était lue par le secrétaire. Après la lecture, Valazé disait « Avez-vous connaissance ?» Le roi répondait oui ou non, et tout était dit. À quelques jours de là, les mêmes commissaires revinrent et firent lecture au roi de 51 pièces nouvelles, qu'il signa et paraffa comme les précédentes. En tout, 158 pièces, dont on lui laissa les copies. Sur ces entrefaites, le roi fut atteint d'une fluxion. Il se rappela ce salut de Gilbert au moment où il était entré à la Convention. Il demanda à la Commune qu'il fût permis à son ancien médecin Gilbert de lui faire une visite. La Commune refusa. « Que Capet ne boive plus d'eau glacée, dit un de ses membres, et il n'aura pas de fluxion. » C'était le 28 que le roi devait, pour la seconde fois, paraître à la barbe de la Convention. Sa barbe avait poussé. Nous avons dit que cette barbe était laide, blondasse, mal plantée. Louis demanda ses rasoirs. Ils lui furent rendus, mais à la condition qu'il ne s'en servirait que devant 4 municipaux. Le 25, à 11 heures du soir, il se mit à écrire son testament. Cette pièce est tellement connue que, toute touchante et chrétienne qu'elle est, nous ne la consignons pas ici. Deux testaments ont souvent attiré notre attention, le testament de Louis XVI, qui se trouvait en face de la République et qui ne voyait que la royauté, le testament du duc d'Orléans, qui se trouvait en face de la royauté et qui ne voyait que la République. Nous citerons seulement une phrase du testament de Louis XVI parce qu'elle nous aidera à éclaircir une question de point de vue. Chacun voit, dit-on, non pas seulement la réalité des choses, mais selon le point de vue où il est placé. « Je finis, écrivait Louis XVI, en déclarant devant Dieu et prêt à paraître devant lui, que je ne me reproche aucun des crimes qui sont avancés contre moi. » Maintenant, comment Louis XVI, à qui la postérité a fait une réputation d'honnête homme, homme qu'il doit peut-être d'ailleurs à cette phrase, comment Louis XVI parjure à tous ses serments, fuyant à l'étranger en laissant une protestation contre les serments faits, comment Louis XVI, qui avait discuté, annoté, apprécié les plans de Lafayette et de Mirabeau appelant l'ennemi au cœur de la France, comment Louis XVI, prêt à paraître enfin, comme il le dit lui-même, devant le Dieu qui doit le juger, croyant par conséquent à ce Dieu, à sa justice, à sa rémunération des bonnes et des mauvaises actions, comment Louis XVI a-t-il pu dire « Je ne me reproche aucun des crimes qui sont avancés contre moi » Eh bien, la construction même de la phrase l'explique. Louis XVI ne dit point « Les crimes que l'on avance contre moi sont faux ». Non, il dit « Je ne me reproche aucun des crimes qui sont avancés contre moi », ce qui n'est pas du tout la même chose. Louis XVI, prêt à monter à l'échafaud, est toujours l'élève de Monsieur de La Vauguyon. Dire « les crimes que l'on avance contre moi sont faux », c'était nier les crimes, et Louis XVI ne pouvait les nier. Dire « je ne me reproche aucun des crimes qui sont avancés contre moi », c'était à la rigueur dire « ces crimes existent, mais je ne me les reproche pas ». Et pourquoi Louis XVI ne se les reprochait-il pas? Parce qu'il était placé, comme nous l'avons dit tout à l'heure, au point de vue de la royauté. Parce que, grâce au milieu dans lequel ils sont élevés, grâce à ce sacre de la légitimité, à cette infaillibilité du droit divin, les rois ne voient pas les crimes, et surtout les crimes politiques, du même point de vue que les autres hommes. Ainsi, pour Louis XI, sa révolte contre son père n'est pas un crime, c'est la guerre du bien public. Ainsi, pour Charles IX, la Saint-Barthélemy n'est pas un crime, c'est une mesure conseillée par le salut public. Ainsi, aux yeux de Louis XIV, la révocation de l'édit de Nantes n'est pas un crime, c'est tout simplement une raison d'État. Ce même Malesherbes qui aujourd'hui défendait le roi, autrefois étant ministre, avait voulu réhabiliter les protestants. Il avait trouvé dans Louis XVI une résistance obstinée. « Non, lui répondait le roi, non, la proscription des protestants, c'est une loi d'État, une loi de Louis XIV, ne déplaçons pas les bornes anciennes. » « Sire, répliquait Malesherbes, la politique ne prescrit jamais contre la justice. »« Mais, s'écriait Louis XVI, comme un homme qui ne comprend pas, où est donc, dans la révocation de l'édit de Nantes, l'atteinte portée à la justice? La révocation de l'édit de Nantes, n'est-ce point le salut de l'État ?» Ainsi, pour Louis XVI, cette persécution des protestants, suscitée par une vieille dévote et par un jésuite haineux, cette mesure atroce qui a fait couler le sang par ruisseaux dans les vallées sévenoles, qui a allumé les bûchers de Nîmes, d'Albi, de Béziers, c'était non un crime, mais au contraire une raison d'État. Puis il y a encore une autre chose qu'il faut examiner au point de vue royal, c'est qu'un roi naît presque toujours d'une princesse étrangère, où il puise le meilleur de son sang, est à peu près étranger à son peuple. Il le gouverne, voilà tout, et encore, par qui le gouverne-t-il? Par ses ministres. Ainsi, non seulement le peuple n'est pas digne d'être son parent, n'est pas digne d'être son allié, mais encore, il n'est pas digne d'être gouverné directement par lui. Tandis qu'au contraire, les souverains étrangers sont les parents et les alliés dans son royaume, et lui correspond directement avec eux, sans intermédiaire de ministre. Bourbon d'Espagne, Bourbon de Naples, Bourbon d'Italie remontaient à la même souche. Henri IV, ils étaient cousins. L'empereur d'Autriche était son beau-frère, les princes de Savoie étaient alliés de Louis XVI, saxons par sa mère. Or, le peuple en étant arrivé à vouloir imposer à son roi des conditions que celui-ci ne croyait pas de son intérêt de suivre, à qui en appelait Louis XVI contre ses sujets révoltés, à ses cousins, à ses beaux-frères, à ses alliés. Pour lui, les Espagnols et les Autrichiens, ce n'étaient pas les ennemis de la France, puisqu'ils étaient ses parents, ses amis à lui, le roi, et qu'au point de vue de la royauté, le roi, c'était la France. Ces rois, que venaient-ils défendre? La cause sainte, inattaquable, presque divine de la royauté. Voilà comment Louis XVI ne se reprochait pas les crimes que l'on avançait contre lui. Au reste, l'égoïsme royal avait enfanté l'égoïsme populaire, et le peuple qui avait poussé sa haine de la royauté jusqu'à supprimer Dieu, parce qu'on lui avait dit que la royauté émanait de Dieu, avait sans doute lui aussi, en vertu de quelques raisons d'État, apprécié, à son point de vue, fait le 14 juillet, les 5 et 6 octobre, le 20 juin et le 10 août. Nous ne disons pas le 2 septembre, nous le répétons, ce ne fut point le peuple qui fit le 2 septembre, ce fut la commune. La journée du 26 arriva et trouva le roi préparé à tout, même à la mort. Il avait fait son testament la veille. Il craignait, on ne savait pourquoi, d'être assassiné en allant le lendemain à la convention. La reine était prévenue que, pour la seconde fois, le roi se rendait à l'assemblée. Le mouvement des troupes, le bruit du tambour, eussent pu l'effrayer outre mesure si Cléry n'eût pas trouvé moyen de lui en faire connaître la cause. À 10 heures du matin, Louis XVI partit sous la surveillance de Chambon et de Santerre. Arrivé à la convention, il lui fallut attendre 1 heure. Le peuple se vengeait d'avoir fait 500 ans antichambre au Louvre, aux Tuileries et à Versailles. Une discussion avait lieu à laquelle le roi ne pouvait assister. Une clé remise par lui le 12 à Cléry avait été saisie dans les mains du valet de chambre. On avait eu l'idée d'essayer cette clé à l'armoire de fer et elle l'avait ouverte. Cette clé avait été montrée à Louis XVI. « Je ne la reconnais pas », avait-il répondu. Selon toute probabilité, il l'avait forgée lui-même. Ce fut dans ces sortes de détails que le roi manqua complètement de grandeur. La discussion terminée, le président annonça à l'assemblée que l'accusé et ses défenseurs étaient prêts à paraître à la barre. Le roi entra, accompagné de Malesherbes, de Tronchet et de Decèze. « Louis, dit le président, la convention a décidé que vous seriez entendu aujourd'hui. » « Mon conseil va vous lire ma défense, » répondit le roi. Il se fit un profond silence. Toute l'assemblée comprenait qu'on pouvait bien laisser quelques heures à ce roi dont on brisait la royauté, à cet homme dont on tranchait la vie. Puis peut-être cette assemblée, dont quelques membres avaient donné la mesure d'un esprit si supérieur, s'attendait-elle à voir jaillir une grande discussion. Prête à se coucher dans son sépulcre sanglant, déjà drapée dans son linceul, peut-être la royauté allait-elle se dresser tout à coup, apparaître avec la majesté des mourants et dire quelques-unes de ces paroles que l'histoire enregistre et que les siècles répètent. Il n'en fut point ainsi. Le discours de l'avocat de Sèze était un véritable discours d'avocat. C'était cependant une belle cause à défendre que celle de l'héritier de tant de rois que la fatalité amenait devant le peuple, non pas seulement en expiation de ses propres crimes, mais en expiation des crimes et des fautes de toute une race. Il nous semble qu'en cette occasion, si nous avions eu l'honneur d'être Monsieur de Sèze, nous n'eussions point parlé au nom de Monsieur de Sèze. La parole était à Saint-Louis et à Henri IV. C'était à ces deux grands chefs de race de laver Louis XVI des faiblesses de Louis XIII, des prodigalités de Louis XIV, des débauches de Louis XV. Il n'en fut point ainsi, nous le répétons. De Sèze fut ergoteur quand il eût dû être entraînant. Il s'agissait non pas d'être concis, mais d'être poétique. Il fallait s'adresser au cœur et non au raisonnement. Mais peut-être, ce plat discours terminé, Louis XVI allait-il prendre la parole, et puisqu'il avait consenti à se défendre, allait-il se défendre en roi, dignement, grandement, noblement? « Messieurs, dit-il, on vient de vous exposer mes moyens de défense. Je ne vous les renouvellerai point en vous parlant peut-être pour la dernière fois. » « Je vous déclare que ma conscience ne me reproche rien et que mes défenseurs vous ont dit la vérité. Je n'ai jamais craint que ma conduite fût examinée publiquement, mais mon cœur est déchiré d'avoir trouvé dans l'acte d'accusation l'imputation d'avoir voulu faire répandre le sang du peuple et surtout que les malheurs du 10 août me soient attribués. J'avoue que les preuves multiples que j'avais données dans tous les temps de mon amour pour le peuple et la manière dont je m'étais conduit me paraissaient devoir prouver que je craignais peu de m'exposer pour épargner son sang et éloigner à jamais de moi une pareille imputation. Comprenez-vous, le successeur de 60 rois, le petit-fils de Saint-Louis, de Henri IV et de Louis XIV, ne trouvant que cela à répondre à ses accusateurs. Mais plus l'accusation était injuste à votre point de vue, sire, plus l'indignation devait vous faire éloquent, vous deviez laisser quelque chose à la postérité, ne fût-ce qu'une sublime malédiction à vos bourreaux. Aussi, la convention étonnée, demanda-t-elle, « Vous n'avez pas autre chose à ajouter pour votre défense ?»« Non, répondit le roi, vous pouvez vous retirer. » Louis se retira. Il fut conduit dans l'une des salles attenantes à l'assemblée. Là, il prit Monsieur de Sèze dans ses bras et le serra contre son cœur. Puis, comme Monsieur de Sèze était en âge, plus encore d'émotion que de fatigue, Louis XVI le pressa de changer de linge et chauffa lui-même la chemise que passa l'avocat. À 5 heures du soir, il rentrait au temple. Une heure après, ses trois défenseurs entrèrent chez lui au moment où il sortait de table. Il leur offrit de prendre quelques rafraîchissements. Seul Monsieur de Sèze accepta. Pendant que celui-ci mangeait, « Eh bien, dit Louis XVI à Monsieur de Malesherbes, vous voyez maintenant que, dès le premier moment, je ne m'étais pas trompé et que ma condamnation était prononcée avant que j'eusse été entendu. » Sire, répondit Monsieur de Malesherbes, en sortant de l'assemblée, j'ai été entouré d'une foule de bons citoyens qui m'ont assuré que vous ne péririez pas, ou que vous ne péririez du moins qu'après eux et leurs amis. Les connaissez-vous, monsieur ? Demanda vivement le roi. Je ne les connais point personnellement, mais certes, je les reconnaîtrai à leur visage. Eh bien, reprit le roi, tâchez de m'en rejoindre quelques-uns, et dites-leur que je ne pardonnerai jamais s'il y avait une seule goutte de sang versée à cause de moi. Je n'ai point voulu qu'il en fût répandu quand ce sang eût peut-être conservé mon trône et ma vie. À plus forte raison à cette heure que j'ai fait le sacrifice de l'un et de l'autre. Monsieur de Malesherbes quitta, en effet, le roi de bonne heure, dans le but d'obéir à l'ordre qui lui était donné. Le 1er janvier arriva. Tenu au secret le plus rigoureux, Louis XVI n'avait plus qu'un serviteur près de lui. Il songeait avec tristesse à cet isolement dans un pareil jour, lorsque Cléry s'approcha de son lit. « Sire, dit le valet de chambre à voix basse, je vous demande la permission de vous présenter mes vœux les plus ardents pour la fin de vos malheurs. « J'accepte vos souhaits, Cléry, dit le roi, en lui tendant la main. Cléry prit cette main qui lui était tendue, la baisa et la couvrit de larmes, puis il aida son maître à s'habiller. En ce moment, les municipaux entrèrent. Louis les regarda les uns après les autres, et, en voyant un dont la figure dénonçait un peu de pitié, il s'approcha de lui. « Oh, monsieur, dit-il, rendez-moi un grand service. Lequel ?» demanda cet homme. « Allez, je vous prie, de ma part, savoir des nouvelles de ma famille, et présentez-lui mes souhaits pour l'année qui commence. »« J'y vais, » dit le municipal, visiblement attendri. « Merci, » dit Louis XVI, « Dieu, je l'espère, vous rendra ce que vous faites pour moi. » »« Mais, » dit à Cléry, un des autres municipaux, « pourquoi le prisonnier ne demande-t-il pas à voir sa famille ?» « Maintenant que les interrogatoires sont terminés, je suis sûr que cela ne souffrirait aucune difficulté. »« À qui faudrait-il s'adresser pour cela ?» dit Cléry. « À la Convention. » Un instant après, le municipal qui avait été chez la reine entra. « Monsieur, dit-il, votre famille vous remercie de vos vœux et vous adresse les siens. » Louis sourit tristement. « Quel jour de nouvelle année, » dit-il. Le soir, Cléry fit part au roi de ce que lui avait dit le municipal sur la possibilité qu'il y aurait peut-être pour lui de voir sa famille. Le roi réfléchit un moment et parut hésiter. « Non, dit-il enfin, dans quelques jours, ils ne me refuseront pas cette consolation, il faut attendre. » La religion catholique a de ces terribles macérations de cœur qu'elle impose à ses élus. C'était le 16 que devait être prononcé le jugement. Monsieur de Malesherbes resta assez longuement avec le roi pendant la matinée. Vers midi, il sortit disant qu'il reviendrait lui rendre compte de l'appel nominal aussitôt que cet appel serait terminé. Le vote devait porter sur trois questions effroyablement simples. Premièrement, Louis est-il coupable ? Deuxièmement, appellera-t-on du jugement de la Convention au jugement du peuple ? Troisièmement, quelle sera la peine ? Il fallait en outre pour que l'avenir vît bien que, si l'on ne votait pas sans haine, on votait au moins sans crainte, il fallait que le vote fût public. Un Girondin nommé Birotteau demanda que chacun montât à la tribune et dit tout haut son jugement. Un montagnard, Léonard Bourdon, alla plus loin. Il fit décréter que les votes seraient signés. Enfin, un homme de la droite, Rouillé, demanda que les listes fissent mention des absents par commission et que les absences en commission fussent censurées et leurs noms envoyés au département. Alors commença cette grande et terrible séance qui devait durer 72 heures. La salle présentait un singulier aspect, peu en harmonie avec ce qui allait se passer. Ce qui allait se passer était triste, sombre, lugubre. L'aspect de la salle ne donnait aucune idée du drame. Le fond en avait été transformé en loge où les plus jolies femmes de Paris, dans leurs toilettes d'hiver, couvertes de velours et de fourrure, mangeaient des oranges et prenaient des glaces. Les hommes allaient les saluer, causaient avec elles, revenaient à leur place et changeaient des signes. On eût dit un spectacle en Italie. Le côté de la montagne se faisait surtout remarquer par son élégance. C'était parmi les montagnards que siégeaient les millionnaires, le duc d'Orléans, le pelletier de Saint-Fargeau, héros de Seychelles, Anacharsis Clootz, le marquis de Châteauneuf. Tous ces messieurs avaient des tribunes réservées pour leurs maîtresses. Elles arrivaient empanachées de rubans tricolores, avec des cartes particulières ou des lettres de recommandation aux huissiers qui jouaient le rôle d'ouvreurs de loge. Les autres tribunes étaient ouvertes au peuple et ne désemplirent pas pendant 3 jours. On y buvait comme dans les tabagies, on y mangeait comme dans les restaurants, on y pérorait comme dans les clubs. Sur la première question, Louis est-il coupable ? 683 voix répondirent oui. Sur la seconde question, la décision de la Convention sera-t-elle soumise à la ratification du peuple ? 281 voix votèrent pour l'appel du peuple, 423 votèrent contre. Puis vint la troisième question, la question la plus grave, la question suprême, quelle sera la peine ? Lorsqu'on en arriva là, il était 8 heures du soir de la troisième journée, journée de janvier, triste, pluvieuse et froide. On était ennuyé, impatient, fatigué. La force humaine chez les acteurs, comme chez les spectateurs, succombait à 45 heures de permanence. Chaque député montait à son tour à la tribune et prononçait un de ses 4 arrêts, l'emprisonnement, la déportation, la mort avec sursis ou appel du peuple, la mort. Toute marque d'approbation ou d'improbation avait été défendue, et cependant, quand les tribunes populaires entendaient autre chose que ces 2 mots, la mort, elles murmuraient. Une fois néanmoins, ces 2 mots furent entendus et suivis de murmures, de huées et de sifflets. Ce fut lorsque Philippe Égalité monta à la tribune et dit « Uniquement occupé de mon devoir, convaincu que tous ceux qui ont attenté ou qui attenteront par la suite à la souveraineté du peuple méritent la mort, je vote pour la mort. » Au milieu de cet acte terrible, un député malade nommé Duchâtel se fit apporter à la Convention, coiffé de son bonnet de nuit, vêtu de sa robe de chambre. Il venait voter pour le bannissement, vote qui fut admis parce qu'il tendait à l'indulgence. C'était Vergniaud, président Audizou, qui se trouvait encore président au 19 janvier. Après avoir proclamé la déchéance, il allait proclamer la mort. « Citoyens, dit-il, vous venez d'exercer un grand acte de justice. J'espère que l'humanité vous engagera à garder le plus religieux silence. Quand la justice a parlé, l'humanité doit se faire entendre à son tour. » Et il lut le résultat du scrutin. Sur 721 votants, 334 avaient voté pour le bannissement ou la prison et 387 pour la mort. Les uns sans sursis, les autres avec ajournement. Il y avait donc pour la mort 53 suffrages de plus que pour le bannissement. Seulement, en retranchant de ses 53 suffrages les 46 qui avaient voté pour la mort avec ajournement, il restait en tout pour la mort immédiate une majorité de 7 suffrages. Citoyen d'Hivernio, avec l'accent d'une profonde douleur, je déclare, au nom de la Convention, que la peine qu'elle prononce contre Louis Capet est la mort. Ce fut dans la soirée du samedi 19 que la mort fut votée, mais ce ne fut que le dimanche 20, à 3 heures du matin, que Vergniaud prononça l'arrêt. Pendant ce temps, Louis XVI, privé de toute communication avec le dehors, savait que son sort se décidait, et seul, loin de sa femme et de ses enfants, qu'il avait refusé de voir, dans le but de mortifier son âme, comme un moine pêcheur mortifie sa chair, il mettait, avec une indifférence parfaite, en apparence du moins, sa vie et sa mort entre les mains de Dieu. Le dimanche matin, 20 janvier à 6 heures, monsieur de Malesherbes entra chez le roi. Louis XVI était déjà levé. Il se tenait, le dos tourné à une lampe, placé sur la cheminée, les coudes posés sur la table, le visage couvert de ses deux mains. Le bruit que son défenseur fit en entrant le tira de sa rêverie. « Eh bien ? » demanda-t-il en l'apercevant. Monsieur de Malesherbes n'osa répondre, mais le prisonnier put voir à l'abattement de son visage que tout était fini. « La mort, » dit Louis XVI, « j'en étais sûr. » Alors il ouvrit ses bras et serra monsieur de Malesherbes tout en larmes sur sa poitrine. « Puis, monsieur de Malesherbes, dit-il, « depuis 2 jours, je suis occupé à chercher si, dans le cours de mon règne, j'ai pu mériter de mes sujets le plus petit reproche. Eh bien, je vous jure, dans toute la sincérité de mon cœur, comme un homme qui va paraître devant Dieu, que j'ai toujours voulu le bonheur de mon peuple, et n'ai pas formé un seul vœu qui lui fût contraire. » Tout cela se passait devant Cléry, qui pleurait à chaudes larmes. Le roi eut pitié de cette douleur. Il emmena monsieur de Malesherbes dans son cabinet et s'y enferma 1 heure à peu près avec lui. Puis il sortit, embrassa encore une fois son défenseur et le supplia de revenir le voir. « Ah, ce bon vieillard m'a vivement ému, » dit-il à Cléry en rentrant dans sa chambre. « Mais vous, qu'avez-vous donc ?» Cette demande était motivée par un tremblement universel qui s'était emparé de Cléry depuis que monsieur de Malesherbes, qu'il avait reçu dans l'antichambre, lui avait dit que le roi était condamné à mort. Alors Cléry, voulant dissimuler autant que possible l'état dans lequel il se trouvait, prépara tout ce qui était nécessaire au roi pour se raser. Louis XVI se frotta de savon lui-même, et Cléry se tint debout devant lui, le bassin entre les deux mains. Mais tout à coup, une grande pâleur passa sur les joues du roi. Ses lèvres et ses oreilles blanchirent. Cléry, craignant qu'il ne se trouvât mal, posa son bassin et s'apprêta à le soutenir, mais le roi, de son côté, lui prit les deux mains en disant « Allons, allons, du courage !» Et il se rasa avec tranquillité. Vers 2 heures, le conseil exécutif vint pour signifier le jugement aux prisonniers. En tête était Garat, ministre de la Justice, Lebrun, ministre des Affaires étrangères, Gouvelle, secrétaire du conseil, le président et le procureur général syndic du département, le maire et le procureur de la commune, le président et l'accusateur public du tribunal criminel. Santerre devançait tout le monde. « Annoncez le conseil exécutif, » dit-il à Cléry. Cléry s'apprêtait à obéir, mais le roi, qui avait entendu au grand bruit, lui en épargna la peine, la porte s'ouvrit et il apparut dans le corridor. Alors Garat, le chapeau sur la tête, porta la parole et dit « Louis, la Convention nationale a chargé le Conseil exécutif provisoire de vous signifier les décrets des 15, 16, 17, 19 et 20 janvier. Le secrétaire du Conseil va vous en donner lecture. » Sur quoi Grouvel déploya le papier et lut d'une voix tremblante. Article 1er. La Convention nationale déclare Louis Capet, dernier roi des Français, coupable de conspiration contre la liberté de la nation et d'attentat contre la sûreté générale de l'État. Article 2. La Convention nationale décrète que Louis Capet subira la peine de mort. Article 3. La Convention nationale déclare nul l'acte de Louis Capet apporté à la barre par ses conseils et qualifié d'appel à la nation du jugement contre lui rendu par la Convention nationale. Article 4. Le Conseil exécutif provisoire notifiera le présent décret dans le jour à Louis Capet et prendra les mesures de police nécessaires pour en assurer l'exécution dans les 24 heures à compter de sa notification et rendra compte de tout à la Convention nationale immédiatement après qu'il aura été exécuté. Pendant cette lecture, le visage du roi resta parfaitement calme. Seulement, sa physionomie indiqua deux sentiments parfaitement distincts. À ces mots, coupable de conspiration, un sourire de dédain passa sur ses lèvres. À ceci, subira la peine de mort, un regard qui semblait mettre le condamné en communication avec Dieu se leva vers le ciel. La lecture finie, le roi fit un pas vers Grouvel, prit le décret des mains, le plia, le mit dans son portefeuille et en tira un autre papier qu'il présenta au ministre Garat en disant « Monsieur le ministre, je vous prie de remettre sur le champ cette lettre à la Convention nationale. » Et comme le ministre paraissait hésiter, « Je vais vous en faire lecture, » dit le roi. Et il lut la lettre suivante d'une voix qui faisait contraste avec celle de Grouvel. « Je demande un délai de 3 jours pour me préparer à paraître devant Dieu. Je demande pour cela l'autorisation de voir librement la personne que j'indiquerai au commissaire de la commune et que cette personne soit à l'abri de toute crainte et de toute inquiétude pour l'acte de charité qu'elle remplira près de moi. Je demande à être délivré de la surveillance perpétuelle que le Conseil général a établie depuis quelques jours. Je demande dans cet intervalle de pouvoir voir ma famille quand je le demanderai et sans témoin. Je désirerais bien que la Convention nationale s'occupât tout de suite du sort de ma famille et qu'elle lui permît de se retirer librement où elle le jugerait à propos. Je recommande à la bienveillance de la nation toutes les personnes qui m'étaient attachées. Il y en a beaucoup qui avaient mis toute leur fortune dans leur charge et qui, n'ayant plus d'appointement, doivent être dans le besoin. Parmi les pensionnaires, il y avait beaucoup de vieillards, de femmes et d'enfants qui n'avaient que cela pour vivre. Fait à la cour du Temple, le 20 janvier 1793, signé Louis. Garat prit la lettre. « Monsieur, dit-il, cette lettre sera remise à l'instant même à la Convention. » Alors le roi ouvrit de nouveau son portefeuille et en tira un petit carré de papier. « Si la Convention m'accorde ma demande à l'endroit de la personne que je désire, dit-il, voici son adresse. » Le roi portait en effet cette adresse, toute de l'écriture de Madame Élisabeth. « Monsieur Edgeworth de Firmont, numéro 483, rue du Bac. » Puis, n'ayant plus rien à dire ni à entendre, le roi fit un pas en arrière, comme au temps où, donnant audience, il indiquait par ce mouvement que l'audience était terminée. Les ministres et ceux qui les accompagnaient sortirent. « Cléry, » dit le roi à son valet de chambre, qui, sentant les jambes lui manquer, s'était appuyé contre la muraille, « Cléry, demandez mon dîner. » Cléry passa dans la salle à manger afin d'obéir à l'ordre du roi. Il y trouva deux municipaux qui lui lurent un arrêté par lequel il était défendu au roi de se servir de couteau ni fourchette. Un couteau seulement devait être confié à Cléry pour couper le pain et la viande de son maître en présence des deux commissionnaires. L'arrêté fut répété au roi, Cléry n'ayant pas voulu se charger de lui dire que cette mesure avait été prise. Le roi rompit son pain avec ses doigts et coupa sa viande avec sa cuillère. Contre son habitude, il mangea peu. Le dîner ne dura que quelques minutes. À 6 heures, on annonça le ministre de la Justice. Le roi se leva pour le recevoir. « Monsieur, dit Garat, j'ai porté votre lettre à la Convention et elle m'a chargé de vous notifier la réponse suivante. Il est libre à Louis d'appeler le ministre du culte qu'il jugera à propos et de voir sa famille librement et sans témoin. La nation, toujours grande et toujours juste, s'occupera du sort de sa famille. Il sera accordé aux créanciers de sa maison de justes indemnités. » La Convention nationale a passé à l'ordre du jour sur le sursis. Le roi fit un mouvement de tête et le ministre se retira. « Citoyen ministre, demandèrent à Garat les municipaux de service, comment Louis pourra-t-il voir sa famille ?»« Mais en particulier, répondit Garat, Mais impossible. Par arrêt de la commune, nous ne devons le perdre de vue ni de jour ni de nuit. La chose, en effet, était assez embarrassante. Cependant, on concilia le tout en décidant que le roi recevrait sa famille dans la salle à manger, de manière à être vu par le vitrage de la cloison, mais qu'on fermerait la porte pour qu'il ne fût pas entendu. Pendant ce temps, le roi disait à Cléry, voyez si le ministre de la Justice est encore là, et rappelez-le. Au bout d'un instant, le ministre rentra. Monsieur, lui dit le roi, j'ai oublié de vous demander si l'on avait trouvé chez lui monsieur Edgeworth de Firmont, et quand je pourrais le voir. Je l'ai amené avec moi dans ma voiture, dit Gara. Il est dans la salle du conseil et va monter. En effet, au moment où le ministre de la Justice prononçait ces paroles, monsieur Edgeworth de Firmont paraissait dans l'encadrement de la porte.